Chapitre 4. Ce jour-là, dans la seconde semaine de mars, M. Denizet, le juge d'instruction, avait fait appeler de nouveau à son cabinet, au palais de justice de Rouen, certains témoins importants de l'affaire Grandmorin. L'ouverture du testament du président Grandmorin avait réveillé en lui un soupçon. La culpabilité possible des Roubaud. Ce testament contenait un legs par lequel Séverine héritait la maison située au lieu-dit la Croix de Maufrat. Le mobile du crime était trouvé. Les Roubaud avaient pu assassiner leur bienfaiteur pour avoir l'héritage plus tôt. Une autre piste existait bien, celle donnée par Roubaud lui-même, celle de l'homme qui, caché au milieu de la foule, pouvait être monté à Rouen dans le coupé. Malheureusement, ces deux pistes ne semblaient mener à rien. Mais un jour, le juge, en interrogeant le garde-barrière Misard, apprit la dramatique aventure de Louisette. Cet enfant qui, violenté par le président, était allé mourir chez son ami Cabuche. D'un coup, il venait de trouver une nouvelle piste et le mobile du crime. Les Roubaud arrivèrent en avance. La pensée d'une preuve inquiétait Roubaud. La lettre qu'il avait fait écrire à sa femme afin de décider Grandmorin à partir. Cette lettre qu'on pouvait retrouver et dont on pouvait reconnaître l'écriture. Jacques parut à son tour. Tout de suite, Roubaud s'avança vers lui, la main tendue. Depuis 3 semaines, à chacun de ses voyages au Havre, le sous-chef se montrait plein d'attention pour lui. Il avait même dû accepter de déjeuner une fois avec eux. Un bruit circulait à la gare lorsque je suis arrivé. On parlait d'une arrestation, leur dit Jacques. À ce moment, Berthe et son mari entrèrent dans le cabinet du juge. L'interrogatoire commença aussitôt. Le mari de Berthe laissa paraître toute sa colère contre le testament de son beau-père. « On ne s'imagine pas, j'espère, que je vais laisser la Croix de Maufrat à ces Roubaud. Un cadeau pareil à la fille d'un domestique? Et puis s'il est prouvé qu'ils ont participé au crime ?» La porte s'ouvrit et une dame blonde entra, vêtue d'un deuil très élégant. C'était Madame Bonnehon, la sœur de la victime. « Je vous prie d'excuser la nature de mes questions, » dit M. Denizet, « mais n'y a-t-il pas eu une histoire avec une jeune femme de chambre chez vous ?»« Ah oui, Louisette. Mais, cher monsieur, c'était une fille malhonnête qui, à 14 ans, avait des rapports avec un repris de justice. » Je crois, pour ma part, que Louisette est morte réellement d'une mauvaise fièvre. D'ailleurs, un médecin l'a constaté. Je ne dis pas que mon frère n'a pas voulu plaisanter avec elle. Peut-être qu'il l'a même embrassée. Il n'y a pas de crime là-dedans. Louisette a sûrement grossi les choses. Et son amant a fini par croire qu'on lui avait tué sa maîtresse. Il était fou de rage et répétait dans tous les cabarets que s'il rencontrait le président, il le saignerait comme un cochon. Le juge l'interrompit vivement. « Des témoins pourront-ils le confirmer ? Oh, cher monsieur, vous en trouverez tant que vous voudrez !» M. Denizet se leva et dit qu'il ne voulait pas abuser plus longtemps de la douleur de la famille. Il resta seul. Pour lui, l'affaire était claire et il tenait le coupable. Il fit entrer Jacques Lantier. M. Denizet insista sur le signalement de l'assassin. Jacques était le seul témoin. Mais il avait peur d'en dire trop. Il répétait que la scène du meurtre était restée pour lui une vision d'une seconde à peine et qu'il ne pouvait guère donner de détails. Le juge fit entrer les époux Roubaud. En apercevant Jacques, ils furent inquiets. Il avait peut-être parlé. Le juge leur posa de nombreuses questions. Tout d'un coup, il se tourna vers Séverine. « Madame, vous avez dit que, à votre avis, un homme était monté à Rouen dans le coupé au moment où le train se mettait en marche. Enfin, c'est certainement ce qui est arrivé, mais je ne l'ai pas vraiment vu. Et vous, monsieur Roubaud, vous n'avez pas vu l'homme ?» Roubaud eut un besoin irrésistible de s'innocenter. « Je crois bien l'avoir vu, » dit-il. « Parlez donc. Comment était-il ? Petit, grand, de votre taille à peu près ? Oh non, non, beaucoup plus grand !» Se tournant vers Jacques, M. Denizet lui demanda : L'homme que vous avez aperçu, le couteau au poing, était-il plus grand que M. Roubaud ? Non, murmura-t-il, pas plus grand, à peu près de la même taille. Mais le sous-chef de gare protesta. « Oh, beaucoup plus grand, de toute la tête au moins !» Jacques restait les yeux largement ouverts sur lui. Il venait soudain d'avoir la certitude que Roubaud était l'assassin. Mais s'il parlait, le couple était perdu. « L'homme avait-il sa barbe entière, comme vous ?» demanda le juge à Roubaud. « Non, non, pas de barbe du tout, je crois. » Jacques comprit que le juge allait lui poser la même question. Que dirait-il ? Car il aurait bien juré, lui, que l'homme portait toute sa barbe. En somme, ces gens ne l'intéressaient pas. Pourquoi ne pas dire la vérité ? Mais comme il évitait les yeux du mari, il rencontra le regard suppliant de la femme et en fut bouleversé. M. Denizet lui posa la question et il répondit « En vérité, cela a été trop rapide. Je ne peux rien affirmer. » M. Denizet insista et il finit par obtenir du sous-chef un signalement complet de l'assassin. Grand, fort, sans barbe, vêtu d'une blouse, en tout le contraire de son propre signalement. Le juge sentait qu'il était sur la bonne piste. Il donna l'ordre de faire entrer un homme qu'il avait fait arrêter. Cabuche entra. C'était un homme grand, au cou puissant, au poing énorme, et qui ne portait pas de barbe. « Vous êtes très violent. Vous avez été condamné à 5 ans de prison pour avoir tué un homme. » Cabuche baissa la tête. « Niez-vous que publiquement, vous avez crié partout que vous saigneriez M. Grandmorin ?»« Ah, ça oui, je l'ai dit. Et je le disais de bon cœur. » « Qu'avez-vous fait dans la nuit du 14 au 15 février ?»« Je me suis couché vers 6 heures. Vous pouvez le prouver ?»« Voyons, je ne peux pas prouver ça. » J'habite dans une maison isolée près de la forêt. J'y étais, je le dis, et c'est tout. Je vais vous le dire, moi, ce que vous avez fait ce soir-là. Vous avez assassiné M. Grandmorin. Qu'est-ce que vous racontez là ? Si je l'avais fait, je le dirais. Je ne l'ai pas fait, mais je le regrette. M. Denizet demanda à Jacques s'il reconnaissait Cabuche comme l'homme du wagon. Il allait déclarer qu'il ne le reconnaissait pas, mais il resta évasif. « Je ne sais pas, je ne peux pas dire. » M. Denizet posa la même question au Roubaud. Roubaud était stupéfié, effrayé de la ressemblance de ce garçon avec l'assassin imaginaire dont il avait inventé le signalement, le contraire du sien. Il hésitait à répondre, mais l'instinct de conservation l'emporta. « Je ne peux rien affirmer, mais il lui ressemble beaucoup, c'est sûr. » Cabuche jura que ce n'était pas lui. Il devint si violent que les gendarmes durent l'emmener. M. Denizet triomphait. Maintenant, sa conviction était faite. Cabuche était l'assassin. Les Roubaud se regardèrent. Ils étaient sauvés, puisque la justice tenait le coupable. Ils sortirent du bureau du juge et attendirent Jacques dans le couloir, car M. Denizet avait encore quelques questions à lui poser. « Eh bien ?» lui demanda Roubaud lorsque le mécanicien reparut. Le juge hésite à nouveau. Il m'a demandé s'il n'était pas 2 pour tuer Grandmorin. Comme j'ai parlé au Havre de quelque chose de noir qui pesait sur les jambes du vieux, il m'a questionné là-dessus. Lui semble croire que c'était la couverture. « Oui. » C'était la couverture, peut-être. Les Roubaud frémirent. Un mot de Jacques pouvait les perdre. Ils savaient sûrement. « À propos, camarade, » dit Roubaud, « ma femme doit aller à Paris. Vous seriez bien gentil de vous occuper d'elle ?»